un aveu d'Aurélien Bélanger, vous êtes allé en Allemagne.
Un jour, je suis allé en Allemagne à pied. J'étais à Strasbourg, c'était en réalité plutôt facile. J'avais fait l'Europe la veille en remontant le cours de l'île jusqu'à la grosse ventouse grise du Parlement qui faisait écho à la dizaine de tentiglous installés au bord du canal. Un mélange de réfugiés qui demandaient leurs droits, de minorités qui réclamaient l'autodétermination et de libéraux hardcore que leur refus de cotiser à la sécurité sociale avait conduit beaucoup trop loin. J'avais aussi été impressionné en tournant à gauche après le Parlement dans une petite rue résidentielle aux maisons en pain d'épices, de voir flotter cette grosse méduse métallique au-dessus d'elle. Quelques-unes, touchées par son venin, s'étaient d'ailleurs déjà métamorphosées en représentations consulaires. L'Allemagne résistait mieux à cet intéressant phénomène de domestication technocratique. Autant la rive occidentale du Rhin était difficile, industrielle et chaotique, autant la ville de Kehl présentait devant ses vastes villas de longues et paisibles pelouses en pente douce. On était là clairement dans la partie huppée de Kehl, peut-être même dans les beaux quartiers de Strasbourg, si le concept de métropole franco-allemande avait vraiment pris. Les travaux de la ligne de tramway transfrontalière étaient en voie d'achèvement. Mais il était étonnant que l'Allemagne se soit mise, à ce point, en position d'observatrice. Ses longues pelouses, ses baies vitrées et ses balcons me paraissaient un peu excessifs, étant donné la qualité un peu pauvre du paysage. À moins qu'il existe une plus-value spéciale de ces maisons, vous pourrez apercevoir la France. Vous n'en reviendrez pas. C'est un spectacle certes difficile, mais quelle délice, en retour, de vous sentir du bon côté du fleuve, vos penchants cathartiques assouvis par ce remuant chaos latin. Je suis d'ailleurs revenu dans mon pays d'origine par une passerelle piétonne, dont la légèreté structurelle apparente était symboliquement alourdie par les milliers de cadenas des discours qu'on y avait prononcés à la gloire de la réconciliation franco-allemande. On dénonce trop, quand on parle de l'Europe, la langue grise de la technostructure, quand il faudrait parler de la langue rose, une langue toute pâteuse encore, des pelles échangées entre De Gaulle et Adenauer, Giscard et le chancelier Schmitt, Mitterrand et le fabuleux Helmut Kohl, à la carrure de géant et à la laine mentholée. Un petit monument a très vite attiré mon attention dans la partie française de ce jardin des deux rives. Une carte de la France, gravée sur un petit autel, signalait que c'était là que je ne sais plus quel géomètre avait tenu par la pointe le dernier triangle de sa carte complète de la France. En tant que Français, c'est le genre de monument qui m'enchante. Le joli peuple que voilà, rationnel et fantasque. Quelle tristesse d'avoir dû s'arrêter là quand il restait tant à faire, toute une Europe à conquérir. Et j'ai vraiment senti pendant quelques secondes de la sympathie pour la grande Europe de Napoléon, pleine de départements et de sous-préfectures de l'Elbe jusqu'au Tibre. Si j'étais allemand, oui, ce monument me terrifierait. Le savoir là, si proche de ma paisible pelouse en pente, ce serait comme d'être condamné à revivre sans fin la pire journée de Hegel, l'entrée de Napoléon dans Iéna. On connaît les démoniaques débordements dont est capable la calme Allemagne. L'histoire les a rendus très explicites. Mais on est sans doute trop bienveillant avec cet insupportable panache et ce dangereux entêtement que nous considérons paresseusement comme nos plus jolies vertus nationales. Napoléon, vu de la sage Angleterre, n'est pas un moindre démon qu'Hitler, même si son caractère et son projet étaient infiniment meilleurs. C'est d'ailleurs Chesterton qui l'a le mieux dit, lucide sur les dangers des deux attitudes, là où nous tendons naturellement à nous pardonner ce caractère agité et fantasque qui tient le Rhin pour une péripétie et non pour un garde-fou. L'absurdité qu'on appelle Allemagne corrigera l'insanité qu'on appelle France, et Chesterton d'ajouter, peu prémonitoire, nous sommes en 1908, que la rivalité franco-allemande a quelque chose de providentiel, idée pour le moins balayée par l'histoire, à moins de considérer avec le dernier René Girard, celui d'achever Clausewitz, que cette rivalité n'est pas destinée à s'épuiser dans l'histoire, car elle posséderait une dimension religieuse cachée. Il faudrait revenir 500 ans en arrière, au moment où François Ier envisage de se porter candidat au Saint-Empire. La chose a dû paraître tellement monstrueuse à Dieu que pour faire diversion, et au risque de se mettre lui-même en danger, il a dû lancer Martin Luther à travers l'Europe comme un contre-feu éternel à l'idée d'empire européen. Mais nous sommes aussi ceux qui regardent et qui prennent des notes, ceux qui ont commandé cette enquête qualitative et ceux qui l'ont organisée. J'ai goûté, il y a 20 ans, différents cocktails au Malibu dans le cadre d'une étude qualitative. La marque, clairement, voulait se relancer. Je déteste le goût de la noix de coco et je n'ai plus jamais retouché au Malibu, dont j'ignore la part de marché actuelle dans le monde assassin de l'industrie des liquoreux. Plus significative est mon expérience avec la brandade de morue. J'en ai testé toute une matinée pour une marque inconnue. C'était salé et fade. Ma mère, en tout cas, avait trouvé l'idée excellente et elle a avait fait au déjeuner sa propre brandade de morue que j'avais dévorée avec un appétit égal. On est là dans le rêve platonicien d'un sondeur. Les opinions timides et matinales pourraient traverser le mur centain de la caverne par une opération de magie filandreuse, électorale et dialectique et venir s'incarner dans de robustes plats du midi ou dans des urnes transparentes. Loin de moi l'idée de reprocher à ma mère d'avoir manqué d'imagination culinaire ou au sondeur d'être de piètre stratège, mais je pense néanmoins qu'on se trompe de méthode. Pour le dire autrement, on fait de la magie, pas de la politique. Les idées politiques n'ont pas les vertus ubiquistes d'une vulgaire brandade. Cela est frappant encore avec les gilets jaunes et la surabondance causale qu'on prête au mouvement. La politique ne naît pas d'un trop-plein, d'un surcroît d'énergie dans le réservoir des passions populaires. Ce n'est jamais un objet statistique, et ce, pour une raison très simple. La politique n'est pas une propriété émergente, un sous-produit de la colère, un résidu d'humeur. Elle est sa propre cause, son propre champ rationnel et autonome. Elle est l'autonomie elle-même. J'ai feuilleté justement à ce propos le livre de Stephen Kaplan sur l'histoire de la boulangerie française au XVIIIe siècle, et je me suis agacé de ce qui il joue, sans y aller vraiment, avec cette intuition en apparence géniale, que de la mauvaise qualité du pain à la prise de la Bastille, il existerait un lien irréfutable. La thèse appétissante est à peu près la même que celle qui fait des gilets jaunes des allégories de leur rond-point. Elle est scandaleusement fausse, car la politique est par définition l'articulation même de notre pensée, l'objet le plus net que nous sommes capables de concevoir, et comme telle, elle n'est pas réductible à autre chose qu'à elle-même, ni à la sociologie saumâtre de ma brandade, ni à l'historicisme liquoreux de mes malibus, ni à la qualité des farines. La politique est une catégorie entière et peut-être la plus haute de toutes, celle de la liberté de penser.
Merci Aurélien Bélanger. Isabelle de Golman, notre camarade de la Croix, vous souhaitez revenir sur un aspect peu connu de la candidate Nathalie Loiseau, désignée hier par La République En Marche pour les Européennes, à savoir son appartenance au catholicisme.
Oui, et si j'en parle, c'est pour comparer les réactions à sa candidature à celles suscitées par François-Xavier Bellamy. Tenez, la semaine dernière encore, on a pu entendre sur BFM TV cette phrase d'un commentateur: François-Xavier Bellamy, ce ne serait pas si mal s'il n'était pas si catholique. De fait, dès la présentation de la candidature du professeur de philosophie, la catholicité dont il ne se cache pas, sans en faire un étendard, a obsédé les médias. Comme s'il était quasi impossible en France d'avoir des convictions religieuses et de faire de la politique à haut niveau. Cela a provoqué au début de sa campagne une focalisation un peu hystérique sur ses positions concernant l'avortement, sur lesquelles on lui demandait à chaque intervention de se justifier. Se dire catholique quand on est élu, ne reviendrait-il pas en soi à enfreindre la laïcité républicaine, s'interrogeaient certains, à abdiquer sa liberté de conscience au profit d'une vérité révélée et d'ordre venu d'en haut ? On attend donc que les mêmes commentateurs s'intéressent également à la catholicité de la toute nouvelle chef de file de La République En Marche, Nathalie Loiseau, qui ne s'en cache pas plus. Qu'ils aillent aussi regarder son livre autobiographique pour lequel elle n'a pas hésité à s'inspirer de la devise de Sainte Thérèse de Lisieux avec ce titre « Choisissez tout » qu'elle justifie ainsi, je cite « Quand elle proclame « Je choisis tout », Thérèse dit prendre tout ce que Dieu lui donne. Il y a dans ces mots quelque chose de très joyeux et moderne, une énorme audace et en même temps une grande humilité. J'y vois une belle leçon de vie, nous confiait en 2014 à la Croix, celle qui était alors directrice de l'ENA.
Et la candidature de Nathalie Loiseau, dites-vous Isabelle, ne semble pas avoir provoqué les mêmes réticences.
De fait, il y a peu de risques que Nathalie Loiseau essuie les mêmes critiques. Car ce qui gêne certains chez Bellamy, c'est moins ses convictions catholiques que ses prises de position sur les sujets de société, mariage pour tous, PMA, GPA, qui semblent l'aligner sur celle de l'Église. Nathalie Loiseau, elle, a toujours pris soin d'afficher sa distance vis-à-vis de l'institution, approuvant le mariage pour tous, la PMA et même la GPA éthique. Ce n'est pas le lien politique et foi, mais le lien politique et église qui pose problème dans notre pays. Il reste un vieux fond de méfiance à l'encontre d'un ordre moral imposé par l'institution ecclésiale. Méfiance d'ailleurs qui, si l'on regarde l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la dite institution, en France, peut prêter à sourire. En réalité, l'engagement des chrétiens en politique n'est pas nouveau. Sans le faire remonter au « il faut rendre à César ce qui est à César de l'Évangile », il suffit de penser au MRP de l'après-guerre, comme à la gauche rocardienne des années 80, ou au parti écologiste aujourd'hui, où prospère une filière catho-associative importante. La candidature de Nathalie Loiseau a en tous les cas un grand avantage. Rappeler aux médias et aux Français, après l'épisode de la Manif pour tous, que le catholicisme en France est pluriel, que s'il penche aujourd'hui effectivement plus à droite qu'à gauche, sous l'influence notamment de la montée du sentiment identitaire en France, on y trouve toutes les opinions. Voilà belle lurette que les évêques ne cherchent plus à influencer quiconque de ce point de vue, y compris sur le vote Front National d'ailleurs, ils ont renoncé à donner des directives. Ce qui permet par là même de tordre définitivement le cou à ce fantasme récurrent d'un parti catho qui ferait les élections. Les catholiques français votent comme les Français, même si plus âgés et plus riches que la moyenne, ils se situent très logiquement plus à droite.
Merci Isabelle de Golman. On vous retrouve dans les colonnes de la Croix avec notamment un article sur l'enfant après 40 ans, Martin Hirsch. Comment j'ai tué son père aux éditions Stock. C'est votre livre à retrouver, à suivre sur France Culture, La Fabrique de l'Histoire, avec une histoire de la Grande-Bretagne dans l'Europe et puis d'autres choses à entendre. Par exemple, le cinéaste israélien Ours d'Or, Nadav Lapid, pour son film Synonyme, que vous pourrez retrouver dans la Grande Table à midi. Et puis la série documentaire consacrée à l'exploration sonore du monde des cétacés, CETA. Aurélien Bélanger, une conclusion sur la mer.
Les grands navires vraquiers, avec leur chargement de sable, de céréales ou de minéraux, se liquéfient parfois jusqu'à disparaître dans l'océan. Leur cargaison granuleuse, mystérieusement entrée en résonance avec la houle, est devenue liquide et s'est dressée soudain dans la soute, comme une vague intérieure qui, en se figeant asymétrique, aura déséquilibré le bateau jusqu'au naufrage. On m'a aussi raconté l'histoire voisine et inversée d'un bateau de bitume, une arche radicalisée, capturée au large de l'Afrique par des pirates qui en auraient éteint les chaudières et imprudemment vitrifiée. Le chargement. Il est enfin connu qu'on ne doit pas nager dans un silo de blé. Les voûtes de soutènement invisibles formées en dessous du nageur kirkegardien par la libre répartition des charges, pouvant à tout moment crever et l'engloutir comme une souris morte. La politique est un fluide non newtonien dont les propriétés nous échappent largement. Comme cet innocent nageur démocrate, nous ne savons jamais comment la chose va réagir, si nous allons être emportés par les grandes marées intérieures d'une révolution ou figés dans l'ambre de la réaction. Et c'est l'image qu'on se plaît à avoir de la politique dans notre société évoluée et hypersensible, démocratique et imprévisible. Craignant l'accident, nous l'avons organisé en lui donnant la forme du suffrage universel pour pouvoir dire aussitôt que le peuple votait décidément très mal. Le mauvais vote du peuple, c'est même devenu l'unique événement de notre vie politique, son inévitable, sa dégoûtante, sa trop attendue manifestation première. Nous sommes des deux côtés de la pièce, de chaque côté du grand miroir sans teint de la démocratie, à l'intérieur et au dehors. On nous a réunis là pour échanger sur nos intuitions politiques et commenter librement la politique du gouvernement ou la stratégie de l'opposition. Mais nous sommes aussi ceux qui regardent et qui prennent des notes, ceux qui ont commandé cette enquête qualitative et ceux qui l'ont organisée. J'ai goûté, il y a 20 ans, différents cocktails au Malibu dans cadre d'une étude qualitative. La marque clairement voulait se relancer. Je déteste le goût de la noix de coco et je n'ai plus jamais retouché au Malibu, dont j'ignore la part de marché actuelle dans le monde assassin de l'industrie des liquoreux. Plus significative est mon expérience avec la brandade de morue. J'en ai testé toute une matinée pour une marque inconnue. C'était salé et fade. Ma mère, en tout cas, avait trouvé l'idée excellente et elle avait fait, au déjeuner, sa propre brandade de morue que j'avais dévorée avec un appétit égal. On est là dans le rêve platonicien d'un sondeur. Les opinions timides et matinales pourraient traverser le mur sans teint de la caverne par une opération de magie filandreuse, électorale et dialectique et venir s'incarner dans de robustes plats du midi ou dans des urnes transparentes. Loin de moi l'idée de reprocher à ma mère d'avoir manqué d'imagination culinaire ou au sondeur d'être de piètre stratège, mais je pense néanmoins qu'on se trompe de méthode. Pour le dire autrement, on fait de la magie, pas de la politique. Les idées politiques n'ont pas les vertus ubiquistes d'une vulgaire brandade. Cela est frappant encore avec les gilets jaunes et la surabondance causale qu'on prête au mouvement. La politique ne naît pas d'un trop-plein, d'un surcroît d'énergie dans le réservoir des passions populaires. Ce n'est jamais un objet statistique, et ce, pour une raison très simple. La politique n'est pas une propriété émergente, un sous-produit de la colère, un résidu d'humeur. Elle est sa propre cause, son propre champ rationnel et autonome. Elle est l'autonomie elle-même. J'ai feuilleté justement à ce propos le livre de Stephen Kaplan sur l'histoire de la boulangerie française au XVIIIe siècle, et je me suis agacé de ce qui il joue, sans y aller vraiment, avec cette intuition en apparence géniale, que de la mauvaise qualité du pain à la prise de la Bastille, il existerait un lien irréfutable. La thèse appétissante est à peu près la même que celle qui fait des gilets jaunes des allégories de leur rond-point. Elle est scandaleusement fausse, car la politique est par définition l'articulation même de notre pensée, l'objet le plus net que nous sommes capables de concevoir, et comme telle, elle n'est pas réductible à autre chose qu'à elle-même, ni à la sociologie saumâtre de ma brandade, ni à l'historicisme liquoreux de mes Malibus, ni à la qualité des farines. La politique est une catégorie entière et peut-être la plus haute de toutes, celle de la liberté de penser.